Alors, 1973, ce choc pétrolier qui a changé le monde. Pour tous, 1973, c'est d'abord la crise énergétique, ce moment qui marque la fin de la période de la croissance la plus spectaculaire qu'a connue l'Occident. La responsabilité de cette rupture est entièrement attribuée à l'OPEP pour avoir décidé un embargo en octobre 73. Avec le recul, ce choc apparaît comme la première crise des limites physiques de la croissance. Et les intérêts de l'industrie pétrolière américaine ne sont jamais loin. Ils pourraient préciser l'OPEP, parce que oui, même moi j'ai un doute. L'OPEP, c'est Nord, hein, c'est ça. Hein. C'est Organisation pétrolière. C'est les pays du Nord, je crois. Ou c'est les. Non, ou c'est. Attendez. OPEP ou c'est le Sud, justement, j'ai un doute. Ah non, c'est Organisation exportateur du pétrole, ok. C'est à chaque fois j'ai un doute si c'est. Ouais, non, c'est le Sud, c'est ça. Hein. C'est justement, c'est le Sud. Ah oui, voilà, non, c'est bien ça, regardez. Hop. Voilà, j'avais un doute. C'est ça, l'OPEP, c'est bien en gros, c'est une union des différents pays exportateurs, notamment du Sud. Voilà, ok. D'où le. Ils auraient pu le préciser quand même. Hop là. Venezuela, Arabie Saoudite, etc. Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai que j'avais un doute, je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est pour. D'où l'histoire, d'où que c'est. Enfin, c'est pour ça que c'est important dans l'histoire et que ça a été le premier choc. Et c'est pour ça qu'il y a eu après plein de suites. Le fait qu'on pouvait laisser le pétrole à ces gens-là, posait problème pour les pays du Sud en mode oula. On n'est plus si libre que ça en fait, il va falloir qu'on impose notre vision du monde. L'OPEP est quand même vachement célèbre, je comprends qu'ils abrègent. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils pourraient. Voilà, bon, c'est un petit. T'as raison, hein, mais quand j'ai des petits doutes comme ça. Hop! Du coup, les inquiétudes et les alarmes transpirent dans tous les articles. À cette fin d'année 73, la presse se fait largement écho des doutes et des angoisses qui ont saisi le monde occidental. Elle a les mêmes mots qu'aujourd'hui. Oscillant entre le vertige d'une fin d'un monde et la tentation de se raccrocher à un progrès technique qui sauverait tout. Ah bah le fameux. Est-ce la fin de l'abondance? Se demande alors le nouvel observateur. Ah ouais? Ah je suis mort! Face au risque conjugué de l'inflation et de la récession, l'exécutif donne de la bande. Quoi? L'exécutif donne de la bande. Patine, Paris bloqué. Rajoute le point. C'est tout l'avenir de notre mode de vie qui est mis en cause. Insiste entreprise, ok, je savais même pas qu'il y avait un journal qui s'appelait comme ça, demandant d'accélérer la lutte contre les gaspillages et le freinage de la demande privée. Paris Match, lui, parie sur la technologie. Pour remplacer le pétrole, l'hydrogène, écrit déjà son éditorialiste Raymond Cartier en enfonçant le clou. La fameuse crise de l'énergie ne naît pas de l'insuffisance des ressources, mais découle d'une paresse et de la prévoyance. Ça me fume de rire que les mêmes mots-clés étaient déjà utilisés il y a 50 ans, quoi. En quelques jours, le monde paraît avoir chaviré. Le 17 octobre 73, précisément selon ce qu'on a retenu, nombre d'historiens et de la mémoire collective. Ce jour-là, les membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, l'OPEP du coup, décident de réduire de 5% par mois leur production tant qu'Israël reste engagé dans la guerre du Kippour. Ok, donc c'est ça le départ du truc. Ok. Ils imposent aussi un embargo de livraison pétrolière pour un certain nombre de pays, considérés comme soutien d'Israël et du premier chef en premier chef des États-Unis. Ah putain, c'était vraiment lié à l'époque à Israël, ok. Je ne savais pas. Sur la crise énergétique et l'organisation du monde autour de la consommation d'énergie, il y a un très bon bouquin, Énergie et équité, qui date justement de 73 par Ivan Illich. Oh. En plus, Ivan Illich, il faut que je le lise prochainement. Attends, je vais mettre ton commentaire. Hop. Merci pour le commentaire, ça m'intéresse de ouf ça. Hop là. Le monde occidental découvre en ce moment-là l'importance d'un sujet sur lequel il ne s'était vraiment jamais attardé, en dépit de son caractère stratégique, la centralité de l'énergie dans toutes les questions économiques, comme le résume Michel Petit, le Petit, chercheur associé au LIED, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui a beaucoup travaillé sur ces questions énergétiques à partir des archives de l'OCDE et par ailleurs vice-président de l'association The Shift Project. Toujours là, hein, le Shift Project. Hein. Mon daron m'a souvent dit que le blocus de l'OPEP était un prétexte comme l'Ukraine aujourd'hui sur les problèmes économiques de cette époque. Ah, c'est intéressant. Hein. Genre, le problème, c'est que là, j'arrive vraiment pas à me situer, donc peut-être que l'article va me permettre un peu mieux de comprendre, mais c'est beaucoup trop loin pour moi et j'ai pas assez une grande culture politique pour comprendre tous les rapports qu'il y a eu avec tout ça. Le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance avait bien lancé, dès 72, l'alerte sur la course folle des économies occidentales à la consommation effrénée des énergies fossiles. Les opinions publiques s'inquiétaient déjà des pollutions et des dégâts provoqués par un développement à marche forcée. Pourtant, personne n'avait pris la peine de mesurer la dépendance du monde à l'égard du pétrole. Mais en vrai, et ça, tu vois, le fameux pourtant personne n'avait pris la peine de mesurer la dépendance du monde à l'égard du pétrole, c'est là où moi, quand, enfin nous, quand on pense le monde actuellement, on se dit bien sûr que le monde, il n'est pas dans un. Enfin, le monde, il est fini et la croissance ne peut pas être infinie. Nous, ça nous paraît évident. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est de garder vraiment en tête qu'à cette époque-là, les gens pensaient vraiment que le monde était infini, quoi. Enfin, pas tous, mais dans l'imaginaire collectif, c'était un monde infini avec une croissance infinie, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et en vrai de vrai, quand tu vois les Musk et les Bezos, ils pensent un peu comme ça, en vrai de vrai. Hein. Et René Dumont a publié L'Utopie et la mort, c'est vrai. Même dans ton chat, t'avais un mec du Shift Project qui se fait infernal. Ah putain, je me souviens même plus. Ça souligne notre hyperdépendance aux énergies fossiles et notre manque de souveraineté sur ces sujets. Exactement, Gogor, exactement. Personne, sauf Frank Hebert, qui a carrément fait un roman là-dessus, je suis mort. Ah mais voilà, mais après, il faut garder en tête que la plupart des gens étaient un peu matrixés sur le sujet là, quoi. Seule une fuite en avant permet de penser le contraire. Genre, on va bien trouver une autre source d'énergie dans le système solaire. Oui, c'est ça, exactement, Diamond, exactement. À partir de la fin des années 1950, la période s'impose partout. Le pétrole s'impose partout. Son caractère fongible et les facilités de transport qu'il offre, ses multiples usages et dérivés possibles, le rendement imbattable. Il supplante le charbon et devient la première énergie fossile utilisée dans le monde. La croissance explosive de l'économie, l'avènement d'une consommation de masse débouche sur l'ère du tout pétrole. À partir du milieu des années 60, la demande mondiale en pétrole augmente de 6% par an. Personne ne s'en soucie, les réserves pétrolières semblent inépuisables. Mais moi, ce qui me paraît fou, c'est que comment on a pu mettre toutes nos billes sur genre si peu de pays? Le choc pétrolier de 73 vient réveiller tout le monde. C'est la fin de la plus formidable période de la croissance enregistrée en Occident, celle que la France retiendra sous le nom des Trente Glorieuses. Ok. Parler de choc pétrolier a un aspect dérangeant, car cela suppose de chercher un événement unique. Bien sûr, il y a l'embargo de l'OPEP, mais celui-ci s'inscrit dans une histoire longue, marquée par une succession d'événements qui vont nourrir la crise de 73, dit Philippe Petria, professeur d'université de Paris-Sorbonne Panthéon, spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. En vrai, ça, je suis un peu d'accord avec lui. Et c'est pour ça que là, Mediapart, ils ont fait tout un dossier avec l'année 73 pour expliquer tous les différents problèmes durant cette année-là, quoi. C'est assez amusant parce que je suis fan de science-fiction, mais l'argument irrationnel de « on trouvera bien une solution de nos jours » est surtout utilisé par les vieux quand on leur parle des problèmes d'énergie. Ouais, bien sûr. Et oui, quand tu dis quand t'es fan de science-fiction, bien sûr que ces domaines-là, ces thèmes-là, ils sont déjà évoqués et pour toi, ça te paraît cohérent, tu vois. Mais à cette époque-là, dites-vous que les gens, l'accès à la culture était différent, lire de la science-fiction, c'était pas non plus donné à tout le monde. Et du coup, bah ouais, il y avait un peu cette vision de ah, l'énergie va nous sauver, quoi. Lavoisier était la théorie officielle en physique en ce moment, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est passé à l'ère de l'entropie quand on a découvert que la machine à vapeur entraînait une dissipation d'énergie non récupérable. Ah, précis, Asparoc. Bien des craquements se sont fait entendre dès la fin des années 60. L'ordre mondial écrit par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est bousculé de toutes parts, tant du côté américain que du côté des pays pétroliers. Et cette crise de 73, présentée souvent comme de la seule responsabilité de l'OPEP dans son affrontement avec l'Occident, fait apparaître de nombreuses convergences d'intérêts entre deux camps, balayant au passage toutes les questions écologiques et de soutenabilité. Bon, bah ça, évidemment. Aux origines de la crise de 73, un choc écologique. S'il existe un événement central aux origines de la crise pétrolière de 73, il fallait le chercher du côté des États-Unis dès le début des années 70. D'après Mathieu Ozono, auteur d'un ouvrage qui fait référence, L'or noir, la grande histoire du pétrole, est par ailleurs directeur du général du Shift Project. L'or noir, on a lu des chapitres ici, hein, sur ce stream. Attention, dans les années 40-50, c'est l'âge d'or de la SF, donc les rapports à la culture étaient différents, ok, mais tu pouvais lire Smia Quasimov dans les magazines Pulp pas cher du tout. Oui, non mais quand je dis culture, en mode un peu nerd quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le côté, c'est même pas le côté accessible, c'est le côté un peu nerd et que ça reste quand même mal. Enfin, en vrai, ça reste de niche quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression que sociologiquement, la SF, ça reste quand même quelque chose qui est relativement de niche, notamment à cette époque-là quoi. C'est un choc écologique selon lui. Plus que politique ou économique, qui annonce le bouleversement de 73. En 1973 a été la première crise locale de la limite physique de la croissance, explique-t-il. En 70, la production de pétrole conventionnel aux États-Unis atteint son pic, poursuit-il. Les réserves pétrolières américaines sont déjà à moitié vides. Donc ça, c'est avant, on est bien d'accord, hein, c'est à moitié vide avant le pétrole de schiste. Hein. Des États comme la Louisiane ou l'Oklahoma enregistrent un fléchissement de leur production. Même le Texas, l'État pétrolier américain, donne des signes de faiblesse. Pour les États-Unis, le premier producteur mondial de pétrole, qui a toujours veillé à son indépendance énergétique, c'est un électrochoc, le déclin semble inévitable. Géologue chez Shell, Marion King Hubbert, avait bien prévenu, dès 1956, que l'industrie pétrolière américaine risquait de rencontrer de graves difficultés, dans un horizon de 10 à 15 ans, en raison de l'épuisement des réserves. Sa mise en garde avait été accueillie par des haussements d'épaules. Pourtant, en début de 71, il faut bien se rendre à l'évidence, le peak oil était bien là. Et en vrai, ça, si je dis pas de bêtises, hein, le peak oil, c'est vraiment le peak oil par rapport au pétrole normal. Et maintenant, avec le fait qu'on peut prendre du pétrole de schiste, qui a complètement révolutionné l'extraction de pétrole, les États-Unis sont repassés premier producteur de pétrole. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça de manière historique et retracer l'histoire, quoi. C'était beaucoup moqué la SF à l'époque, le rapport à la science-fiction a énormément évolué ces dernières années. Oui, voilà, c'est ça, Gogor. C'est pour ça que je pense qu'attention, faut pas se tromper. Quand je dis, c'est pas parce que c'était accessible à beaucoup de gens, de manière financière, que c'était pas forcément accessible de manière sociologique. C'est pour ça que moi, je pense que là où faut faire attention, c'est que l'ASF, les comics, la SF et compagnie, c'était comme voilà, un truc vraiment de nerd. Et du coup, c'était pas non plus le. Enfin, ça a pas dû toucher beaucoup, beaucoup de monde par rapport à la population globale, quoi. Après, voilà, j'ai pas de chiffres statistiques, donc j'ai pas envie de plonger là-dedans, mais faudrait voir s'il n'y a pas une recherche scientifique qui montre des stats là-dessus. Alors que la production commence légèrement à décliner, la consommation, elle, galope. Elle va augmenter de 20% entre 70 et 73 pour atteindre 17 millions de barils par jour aux États-Unis. Incapable de répondre à la demande, l'administration américaine se retrouve dans une situation inconnue jusqu'alors. Elle est obligée d'importer du pétrole, comme l'Europe et le Japon, qui eux sont toujours en position d'importateur. Entre 70 et 73, la plupart des importations dans la consommation pétrolière des États-Unis passent ainsi de 19 à 35%. Ah oui, presque le double, hein. Presque le double d'importation du coup. Il y a tout un numéro du Monde diplomatique consacré à cette question, c'est très intéressant. Oh, tu peux me mettre le lien, Gogor, ou au moins un article qui en parle, s'il te plaît, si c'est possible. Ça m'intéresse de ouf, ça. Si ça te dérange pas. L'administration américaine s'inquiète très vite de cette dépendance. Si les États-Unis acceptent, ils vont se fragiliser, explique Michel Lepetit. De plus, comme le note l'universitaire italien Giuliano Garavini, pardon, auteur de The Rise and the Fall of OPEC, l'ascension et la chute de l'OPEP, non traduit en français, les États-Unis ne sont plus en mesure d'approvisionner leurs alliés en pétrole si nécessaire. Ah oui, donc le changement sur l'échiquier politique. Des rapports alliés et l'OTAN, etc., quoi. La conséquence de ce basculement historique se manifeste très vite. Dès le premier trimestre 71, la balance commerciale affiche un déficit de 5,8 milliards de dollars. Une première aussi pour Washington, qui a jusqu'alors toujours accumulé les excédents commerciaux. En juin 71, Richard Nixon adresse un message, présidentiel spécial au Congrès. Il est des plus alarmistes. Durant toute son histoire, le peuple américain a considéré l'approvisionnement abondant en énergie comme un fait acquis. Mais la présomption selon laquelle une énergie suffisante sera toujours disponible a été brusquement remise en question au cours de l'année passée, insiste-t-il, avant de prévenir qu'à l'avenir, les Américains vont payer leur pétrole plus cher et que le temps de la sobriété énergétique est venu. Ah, c'est ouf, hein. En vrai, c'est ouf de voir qu'en 71, il y a déjà Nixon qui dit ça à la population, quoi. Je trouve ça ultra précis. Hein. Merci beaucoup pour le lien, Gogor. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que nous dit là Macron quelques années plus tard, quoi. Et en vrai, moi, la vraie question, c'est quel va être le moment où quand il n'y aura plus de solution, quoi. Quand il n'y aura plus d'alternative, quand on ne pourra plus refaire le cycle, qu'est-ce qui va se passer? Dis-toi l'abondance, oui, c'est ça, ouais. Donc le fait qu'on parle de pétromonarchie pour certains pays du Golfe, leur population devrait se révolter 50 fois. Mais ces petites dictatures ont l'appui actif des USA, exactement, ouais. Pour maintenir le statu quo à cause du pétrole, pour continuer d'acheter un prix intéressant. Ouais, c'est exactement ça, Raven. De ouf. Les réclamants ont clairement pas eu le choix sur le pétrole de schiste, avec les trilliards de dettes et de Saoudiens qui se mettaient à vendre du pétrole pour la première fois dans une autre monnaie que le dollar. Ils se sont juste achetés quelques années au prix fort. Ouais, bien sûr. Ah, mais c'est ça, en fait, et ce qui est ultra intéressant, c'est que le pétrole de schiste, du coup, qui est vraiment une destruction sur le long terme de bah, de ton terrain, quoi. C'est là où tu vois que bah, pour la fameuse croissance, on est prêt à détruire des communs, hein, qui sont vitaux pour la suite, quoi. C'est là où on voit qu'on n'est quand même pas très malin sur le long terme. Les événements s'enchaînent. Le 15 août 71, les États-Unis annoncent la fin des accords de Bretton Woods qui organisent le système monétaire international depuis 1944. C'est la fin de l'étalon échange d'or. Voilà. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai appris. Je ne savais pas que c'était plus basé sur l'or. Enfin, je l'ai appris récemment, quoi. Mille causes participent à l'éclatement de ce système monétaire de parité fixe et de convertibilité du dollar en or. L'épuisement du modèle fordiste et la baisse tendancielle des profits, la montée inexorable de l'inflation, les coûts faramineux de la guerre du Vietnam, les besoins du gouvernement américain de retrouver des marges de manœuvre pour financer la nouvelle frontière, programme de développement présenté par Kennedy et repris par ses successeurs. Sans parler de la contestation portée par les pays européens, en particulier l'Allemagne, qui milite pour l'adoption d'un système de change flottant. Ok, c'est l'Allemagne qui est derrière... Ok, d'accord, ça, je savais pas qu'il y avait l'Allemagne un peu derrière ça. Chacun réfléchit à hauteur d'une vie ou d'un mandat. Ben ouais, c'est ça qui rend fou. Alors qu'on devrait vraiment réfléchir de par rapport aux transmissions des communs et du futur, quoi, de nos enfants, de notre ouais, future patrie, future... comment on appelle ça, notre héritage, quoi. C'est toutes les communautés américaines qui se seraient effondrées en l'absence de monnaie étalon. La seule valeur qui maintient le dollar était l'obligation pour tous les états du monde à devoir acheter du dollar pour acheter du pétrole, jusqu'à tout récemment. Ok. Eh frérot, t'es fort en vulga, toi. Hein. Enfin, je trouve que tes messages sont clairs. Mais le contexte pétrolier participe aussi à une remise en cause. Tant dollar et pétrole sont inextricablement liés. En mars 67, la Chase Manhattan Bank de David Rockefeller, la banque du pétrole aux États-Unis, semble être la première institution majeure aux États-Unis à avoir proposé officiellement l'abandon de l'étalon or, relève Mathieu Ozano. Donc ça, on l'a lu en plus dans le chapitre 8 de l'or noir. Il est disponible sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent. Et du reste, demain, on va faire un react de Modera Dark qui parle de Rockefeller. Ça va être marrant. La fin de Bretton Woods en a en tout cas un effet immédiat. Le dollar dévalue par rapport à toutes les autres devises internationales dans les proportions allant de 8% à 16% selon les monnaies. Les États-Unis, qui importent désormais du pétrole, le paient moins cher et la balance commerciale mécanique se redresse. D'accord, ok. Ah, c'est ultra intéressant. En fait, ça a permis de récupérer du pétrole moins cher. Les pays producteurs reprennent la main sur leur pétrole. Cette chute constante du dollar est un facteur qui vient nourrir les récriminations des pays producteurs du pétrole. Depuis des années, le prix du pétrole, fixé jusqu'alors par les grandes majors pétrolières occidentales, Exxon, Mobil, Chevron, issus de l'éclatement de la Standard Oil, Gulf et Texaco pour les États-Unis, BP et Shell côté britannique et Elf côté française des pétroles, devenu Total par la suite. Donc ça, c'est l'histoire des différentes entreprises pétrolières, quoi. Et le cours ne varie pas d'un pouce, il est fixé à 1,80$ le baril pour l'Arabian Light, référence pour le pétrole du Moyen-Orient. Leur revenu pétrolier ne cesse de diminuer alors que les produits manufacturés qu'ils importent des États-Unis et de l'Europe augmentent en flèche en raison de l'inflation. Oui, parce que le pegging, le fait de verrouiller la valeur d'une monnaie par rapport à un matériau comme l'étalon or, pose des problèmes économiques systématiques. Au bout d'un moment, c'était intéressant de s'en débarrasser. Ouais, tu vois, mais après, voilà, le problème, faut que je fasse là, les vidéos sur Eureka, c'est que je suis pas du tout assez calé sur l'économie, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre à tous les fonctionnements liés à la monnaie, quoi. Mais on va bientôt continuer la série de Jean-Michel Eureka. L'OPEP a échoué à imposer un embargo pétrolier au moment de la guerre des 6 jours, 1967. Mais à partir du début des années 70, les pays producteurs se sont déterminés à reprendre en main et à obtenir une meilleure rétribution du pétrole. Lors de la réunion de l'OPEP à Caracas, décembre 70, les pays de l'OPEP, y compris l'Arabie Saoudite, prennent une posture assez radicale pour imposer un nouveau partage face aux majors pétrolières, rappelle Philippe Petria. Ils obtiennent notamment, lors de cette réunion, une hausse de la taxe sur les profits pétroliers portée à 55%, une augmentation des prix postés, l'élimination de tous les rabais. Ouais. Oh, ils ont réussi vraiment à... Putain, en vrai, l'OPEP, ils ont fait un coup de maître, là. Ces victoires s'inscrivent dans le mouvement beaucoup plus large de décolonisation et de reconquête des ressources pétrolières par les pays producteurs. En février 71, l'Algérie décide de nationaliser... décide la nationalisation de tous les collectifs, de tous les actifs pétroliers du pays. Cette initiative sera bientôt imitée par la quasi-totalité des pays producteurs. En 72, le Venezuela nationalise à son tour ses réserves, imité dans la foulée par l'Irak, le Koweït, le Qatar et la Libye en 73. Même l'Arabie Saoudite négocie et obtient de reprendre le contrôle de la puissance d'Aramco, la plus riche compagnie pétrolière en réserve du monde. Elle n'avait jusque-là qu'un strapontin face au major occidental. Putain, c'est ouf en vrai. Hein. C'est, en fait, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois vraiment que les pays du Nord, en fait, sont rien sans la domination des pays du Sud. C'est ultra intéressant de voir ça, quoi. Et du coup, donc, soit sont rien sans la domination, soit il faut réussir à faire à imposer une forme de néocolonialisme, ou alors à être copain-copain avec des dictateurs, quoi. Bonne nuit, la DEC, repose-toi bien. Merci d'être passé. Celles-ci sont persuadées que les pays producteurs ne tarderont pas de nouveau à leur demander de leur aide. Il n'en sera rien. Les pays producteurs se sont dotés d'une génération d'experts, d'ingénieurs, chercheurs, directeurs financiers, travaillant dans l'industrie pétrolière, qui comprennent les mécanismes, savent les expliquer. Ils sont tous là au moment des nationalisations et la montée en puissance de l'OPEP. C'est pour cela que ça ne marche. C'est pour cela que ça marche. Souligne Philippe Petria. Ok, et ça, c'est ce qu'a dit Siromatique. C'est ce que veut faire le Zimbabwe. Le Zimbabwe, en voulant produire chez eux directement les batteries de voitures, bah, ça permet justement d'arrêter de faire de voir les réserves de lithium dilapidées, quoi, par les pays du Nord. Et c'est ultra important de récupérer du savoir. Et c'est pour ça que la Chine est assez dangereuse à ce niveau-là. C'est que l'impérialisme chinois, ça arrive dans les pays, ça construit plein de choses, donc des routes, des usines, etc. Et en fait, ça amène surtout des penseurs et des cerveaux chinois. Ils ne font pas du tout travailler les travailleurs locaux. Et ça, c'est assez dangereux. Il faut surveiller de près la Chine, et je pense qu'il va avoir un impact un peu plus gros. Et pareil, la Russie, c'est un peu différent le système, si je dis pas de bêtises. Souvent, c'est plutôt des espèces de blocages, quoi. Ça verrouille en fait la technologie pendant X années par rapport à la Russie. Donc je crois qu'il y a différentes formes d'impérialisme. Après, je maîtrise pas assez, donc il fallait vous renseigner là-dessus, mais ça, c'est intéressant à surveiller. En février 71, un accord est signé à Téhéran avec les majors pétrolières. Les pays producteurs obtiennent une augmentation de 35 cents le prix de l'Arabian Light pour le porter à 2,15$. Cela paraît dérisoire comparé à l'inflation généralisée. Mais pour l'OPEP, c'est un pas de géant. Avant cette hausse, le cours du baril, inchangé pendant plus de 15 ans, était inférieur à son prix de 1957, en dollars constants. Wow, ça, c'est trop ouf de revoir le côté historique du pétrole. Hein. La Chine n'est pas dangereuse que pour ça, elle a aussi quasi monopole des métaux rares, elle utilise l'argent de la balance commerciale positive pour racheter les dettes des autres pays. Oui, elle est dangereuse sur plein d'autres critères, même elle achète des terres aussi du foncier. Donc oui, t'as raison, mais c'est vrai que je pensais à ça tout à l'heure. Ouais. L'immense problème du Venezuela, c'est qu'ils n'ont jamais réellement investi dans la diversification de leur économie. Ils sont restés sur leur économie de pétrole et la crise de 2014 les a mis à genoux immédiatement. Ok, merci pour les infos. Bien que mesurée, cette hausse déclenche la colère des Européens et du Japon, importateurs de toute leur énergie. Rappelle Giuliano Garavini, pardon. Ces derniers accusent les États-Unis d'avoir privilégié l'intérêt de leur groupe pétrolier et leur multinationale au détriment de ceux du reste de l'Occident. Les alliés des États-Unis n'ont peut-être pas tout à fait tort. Ah bah, tiens, oui. Chine qui a liquidé toute sa dette américaine conjointement avec la Russie sur ces 20 dernières années en prévision du moment inévitable. Et ils sont, en vrai, la Chine, ils sont vraiment malins. C'est un truc de ouf. Hein. Ça va être un vrai acteur important, la Chine, dans les années qui suivent. C'est déjà un acteur très important. Dans les majors américaines, exigent une hausse du baril. Quand les majors américaines exigent une hausse du baril? Dès le printemps 72, James Akins, le monsieur pétrole de l'administration américaine, a pris position publiquement pour dire que le prix du pétrole avait été trop bas et qu'il devait augmenter pour assurer la sécurité des approvisionnements. Rappelle Michel Petit. À la même période, la Chase Manhattan, qui est la banque de l'industrie pétrolière, elle a eu son siège pendant longtemps dans la même tour qu'Exxon, publie une note estimant que si les prix du pétrole restent à un niveau aussi bas, aucun des premiers projets situés dans les zones extrêmes de l'ouest de Suez n'est financiable. Continue de son côté Mathieu Ozano. Donc tout ça pour ceux qui veulent, hein, c'est disponible là-dedans. Ceux qui veulent un peu savoir d'où viennent toutes ces informations-là, vous creusez dans ce livre-là, L'or noir, qui est un petit bijou d'informations. Et on a déjà lu deux chapitres en live sur la chaîne. Je pense pas en lire d'autres, mais voilà, je vous conseille d'aller checker ce livre. Tous ne font qu'exprimer publiquement les vues de l'industrie pétrolière américaine. Les majors pétrolières ont toujours su comment se faire entendre et influencer la politique américaine. Mais l'administration Nixon est une des plus attentives à leurs souhaits. L'industrie pétrolière y bénéficie de nombreux relais. Elle a notamment l'attention de Henry Kissinger, un protégé de Nelson Rockefeller, petit-fils du fondateur de la Standard Oil et personnage central du lobby pétrolier américain. Alors ça, de toute façon, hein, on en a déjà parlé, l'enfer de la relation capitaliste de la famille Rockefeller, qui est un peu présente partout dans tous les lores capitalistes des États-Unis, c'est une galère, quoi. Henry Kissinger est un homme qui monte dans l'administration Nixon. À partir du scandale du Watergate, 72-74, il va acquérir une influence écrasante dans la politique et la diplomatie américaine, imposant ses vues, en particulier sur l'énergie. À côté de lui, on trouve aussi un certain George Bush, sénateur républicain du Texas, qui a fait fortune dans le pétrole. Son futur ami Dick Cheney, futur patron de la société pétrolière Halliburton, celui-ci travaille alors au sein de l'administration Nixon comme assistant de Donald Rumsfeld. Autant de noms que l'on retrouvera bien des années après. En vrai, c'est intéressant parce qu'en vrai de vrai, là, ce qu'on est en train de lire, c'est un espèce de condensé du chapitre qu'on a lu la dernière fois. Tous se partagent la même vision sur la façon d'assurer la sécurité énergétique des États-Unis. Pour remplacer les gisements traditionnels, il faut développer d'autres champs pétroliers. Les majors pétrolières reconnaissent de longues dates d'existence des réserves offshore de l'Alaska, de la mer du Nord et du golfe du Mexique. Ok, donc en gros, ça, voilà, avant d'aller partir en pétrole de schiste, on va faire du offshore. Rappelle Michel Le Petit. Même si elle connaissait déjà toutes les dégradations écologiques induites, elle rêve aussi de reprendre la fracturation hydraulique interdite depuis 1929 ou d'exploiter les sables bitumineux. Ah, et donc ça a été mis en place, du coup la fracturation hydraulique, donc c'est ce qu'on appelle le pétrole de schiste, ça a bien été repris des années plus tard. Entre Nixon, Reagan, Bush, père et fils et Trump, la tier list des présidents états-uniens t'as peur. Ouais, de ouf, hein. Si tu veux un truc sympa à voir sur Dick Cheney et Bush, il y a le film Vice, magnifique et divertissant. Ouais, ça m'étonne pas. Merci pour le truc. Il est dans ma liste, faut que je le mate, un de ces quatre. Mais toutes ces réserves, difficiles d'accès, demandent beaucoup d'investissements technologiques et financiers. Tant que le prix du baril reste autour de 2$, elles ne sont pas exploitables, car non rentables, estime l'industrie pétrolière, qui n'entend pas rogner sur ses marges. Ah, donc d'où le fait qu'il faut augmenter le prix, quoi. L'administration de Nixon travaille alors sur un projet à 5$ le baril à la fin de la décennie 70. Dès l'été 72, le prix du pétrole aux États-Unis est à 4,20$ le baril, deux fois plus que les cours mondiaux du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Il ne cessera de monter pour atteindre 5,20$ du baril en 73. Putain, c'est ouf, hein. Comment tout ça a été mis en place, quoi. Lorsque les États des membres de l'OPEP se retrouvent à Vienne le 8 octobre 1973, la guerre du Kippour lancée contre Israël par l'Égypte et la Syrie a éclaté depuis 2 jours. Le cartel ne s'est pas réuni pour étudier une riposte en appui aux pays arabes, mais pour obtenir une augmentation des prix du baril, demandée de longue date. Compte tenu de la hausse de la demande, de la baisse du dollar, pardon, de l'inflation, des États veulent que le prix du baril de l'Arabian Light soit fixé à 5,12$. Ah ouais, c'est un délire, hein. Putain, c'est ultra intéressant. Je kiffe trop l'histoire comme ça. Il me semble qu'il y a eu 3 évolutions majeures dans l'histoire de l'extraction du pétrole, sans raconter trop de bêtises. La fracturation hydraulique étant un suicide écologique total. Je suis ravi que l'Europe n'y cède pas malgré les pressions des lobbies. Ouais, de ouf, Gogor. Vraiment, le pétrole et gaz de schiste, c'est un enfer écologique, et notamment pour les nappes phréatiques. Et je comprends pas comment tu peux accepter ça, en fait. Et c'est là où tu vois vraiment que les discours sur la décroissance sont primordiales pour l'écologie, en fait. C'est trop trop important d'être solide sur les discours de la décroissance, parce que ça va nous mener vraiment dans le mur. Face au refus des groupes pétroliers occidentaux, l'OPEP décide de l'imposer. Le 16 octobre, le cartel annonce une hausse du baril. Mais le lendemain, le ton se durcit. Les membres du cartel annoncent une réduction de leur production et un embargo à destination des principaux soutiens à Israël, en premier lieu les États-Unis, tant que la guerre du Kippour durera. Un cessez-le-feu sera signé 3 jours plus tard. Ah oui, d'accord, les embargos, quand... Alors bizarrement, embargo face aux États-Unis, ça fonctionne plutôt bien. Mais l'embargo, lui, durera jusqu'en avril 1974. Ça sera toutefois un embargo à trous. L'Arabie Saoudite veillera ainsi à ce que l'armée américaine au Vietnam soit toujours approvisionnée en brut en la livrant à partir de Singapour. Il se relèvera aussi, révélera aussi que beaucoup plus préjudiciable pour l'Europe et le Japon, qui importent toute leur énergie que pour les États-Unis, qui n'achètent encore que des quantités limitées. À 5,12$ le baril, la hausse est cependant encore acceptable pour l'économie mondiale. Pourtant, c'est x2, hein. C'est ouf de dire que c'est acceptable alors que c'est déjà x2, quoi. Attendez, la guerre de 6 jours et le Kippour, c'est la même? J'ai pas l'impression, tout à l'heure, il disait pas ça. Hein. Je sais pas. Là, j'avoue, je crois pas. Dans le doute, je dirais que je ne crois pas. Mais si quelqu'un peut préciser, je suis chaud. Le vrai choc pétrolier, ce n'est pas l'embargo de l'OPEP en octobre, mais l'augmentation spectaculaire du baril décidée par le Shah d'Iran en fin décembre. Dit Mathieu Ozano. La proposition de l'Iran, lors de cette nouvelle réunion de l'OPEP le 22 décembre, surprend tout le monde. Le ministre iranien demande un prix du baril à $15. Ah oui! Ok, le Shah, il a pas le temps. L'Irak, l'Algérie et la Syrie soutiennent immédiatement cette position, tandis que l'Arabie Saoudite refuse. Alors que le prix du baril a déjà doublé en quelques mois, impossible, explique Riyad, d'imposer à nouveau une telle augmentation. Ah oui, il est vraiment pas allé de main morte, le frérot. Le 23 décembre, le Shah d'Iran décide unilatéralement que le prix du pétrole iranien sera désormais de $11,65. Dans le monde occidental, c'est l'affolement. Les queues s'allongent devant les stations-service, donnant lieu à quasi-scènes d'émeutes, alors que les pénuries d'essence menacent, comme le raconte un article du New York Times du 30 décembre 73. La presse américaine a trouvé un nom pour désigner ce moment, le massacre de la veille de Noël. Putain, c'est fascinant, hein, ça me fume de rire. Les queues s'allongent, oh. Oui. Non, c'est moi la phrase qui m'a mis dans le doute. Ah, je sais pas, je pense pas. On va regarder après. Comment s'appelle l'article? Je te mets le lien. C'est un article de Mediapart. Hop là. Je te mets ça dans le chat. Intérêt convergent. Tout allait si vite que les souvenirs s'en mêlent. La mémoire collective ne retiendra qu'une chose, la responsabilité unique de l'OPEP dans le choc pétrolier, marquant le début d'une longue suite de crises. Mais est-ce la bonne lecture? Guerre de 6 jours 67, la guerre de Kippour 73. Oui, voilà, on est d'accord, c'est bien deux dates différentes. Merci. En plus, c'était écrit dans l'article tout à l'heure. Curieusement, il y a encore peu d'archives ouvertes sur cette période. Des années après, les historiens et les experts se perdent en conjectures pour comprendre, notamment, les motivations du Shah d'Iran. Considéré alors comme un des alliés les plus sûrs des États-Unis, aurait-il osé lancer et prendre une position susceptible de basculer l'économie mondiale sans avoir reçu l'aval au moins implicite de l'administration américaine? Oh, c'était complotiste. Incroyable. Enfin, complotiste, non, mais... Cela semble relever de la théorie du complot. Ah. Mais de nombreux éléments posent malgré tout question, note Mathieu Ozono. Ce n'est pas parce que cela paraît complotiste que ce n'est pas vrai, ajoute Philippe Petria. En vrai, je suis un peu d'accord avec eux. Moi, j'ai la même avis, en mode oh, un peu théorie du complot, mais en vrai de vrai, il y a un lore. Hein. L'Iran a pris la tête d'une demande qui convient alors à beaucoup de monde. Fixer le prix du baril à $11,65 revient à obtenir $7 par baril pour le gouvernement iranien, qui a des grandes ambitions pour moderniser le pays, relève ce dernier. Par la suite, le Shah a très bien défendu sa position. Il a adopté une vision très environnementaliste, expliquant que le pétrole avait une valeur intrinsèque qui justifiait de le préserver, qu'il fallait le vendre très cher car le temps du pétrole n'allait pas durer longtemps. En vrai, lucide, hein? Lucide, le frérot. Alors, je sais pas s'il dit ça, mais... merci beaucoup, je vais checker ça. Merci, Raven. Les majors américaines répondront le même argument. Dès le lendemain de la décision du Shah, comme il est raconté dans l'or noir, un porte-parole d'Exxon explique dans le New York Times que la hausse du pétrole décidée par l'OPEP n'a rien d'inattendu, que l'Occident doit comprendre que le temps du pétrole très bon marché est révolu. Plus troublant, par deux fois, le tout-puissant ministre saoudien de l'énergie, Ahmed Zaki Yamani, qui a dirigé la politique pétrolière du pays de 62 à 86, pointera le poids des États-Unis derrière la décision iranienne. Ah, c'est ouf, hein. Mais en vrai, moi, ça me paraît pas idiot, hein. Ça me paraît vraiment pas idiot que les États-Unis, enfin, qu'il y ait une espèce de relation qui a été installée, parce que du coup, ça arrange, entre guillemets, les États-Unis en vrai de vrai. Je suis à 100% convaincu que les Américains étaient derrière l'augmentation du prix du pétrole, explique-t-il dans l'hebdomadaire britannique The Observer en 2001. Même si le ministre saoudien de l'énergie a eu des vérités successives, revenir sur cet épisode 27 ans après l'embargo soulève quelques questions. Ah putain, je sais pas, je suis pris dans la théorie du complot là. Je sais pas quoi penser. Quoi qu'il en soit, l'industrie pétrolière américaine comprend tout de suite qu'une fenêtre s'ouvre devant elle et elle ne va pas la laisser passer l'occasion. Dès le 25 décembre, des majors annoncent qu'en raison de la hausse des prix du pétrole, elles vont accélérer leur investissement pour lancer le développement de forages offshore. C'est le début du pétrole de mer du Nord, qui constituera un puissant pilier de la révolution néolibérale tchatchérienne. Ah ben voilà. Viendront ensuite la période de l'Alaska et celui du Golfe du Mexique. Enfin, le pétrole de l'Alaska et celui du Golfe du Mexique. Voilà, donc pour moi, en vrai... Ah là, voilà, t'es complotiste, hein. Mais pour moi, c'est clairement un coup de maître qui a été fait par les néolibéraux, tout simplement. Dans les semaines qui suivent, le monde pétrolier reparle de l'intérêt d'exploiter la fracturation. Des enchères sont lancées dans plusieurs états pour favoriser son développement. L'huile et le gaz de schiste, cependant, ne connaîtront leur plein essor qu'après la découverte de nouvelles technologies, permettant le forage horizontal et surtout après 2008, quand la politique monétaire permettra de subventionner à fond perdu une activité qui, jusqu'à la crise énergétique de 2021-2022, n'a jamais gagné d'argent. Ah ouais ? Oh putain, c'est précis ça. Trois mois après la fin de l'embargo, un émissaire spécial américain est envoyé en juillet 1974 à Riyad pour négocier avec le régime saoudien, comme le raconte un long article de Bloomberg à partir d'archives auxquelles il a eu accès. Il y a une mission précise, faire en sorte que le pétrole ne devienne pas une arme économique et obtenir que le royaume accepte de financer le déficit américain avec des nouvelles richesses obtenues grâce à la hausse du pétrole. Celui-ci doit aussi s'assurer que les contrats pétroliers resteront toujours libellés en dollars afin de concéder le statut de seule monnaie de réserve internationale de celui-ci. Ah oui, voilà, le fameux truc, ok. Ça, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. La mission réussira au-delà des espérances américaines. Le nouvel ordre pétrolier durera plus de 40 ans. Le paradoxe est alors est qu'au moment où le pétrole aurait pu devenir politique, les compagnies nationales du Moyen-Orient vont devenir libérales, voire néolibérales. L'OPEP n'aura plus jamais un rôle politique comme en 73, se contentant d'un discours économique et d'assurer l'équilibre du marché, analyse Philippe Pétria. Ah, c'est ultra précis. En gros, si j'ai bien compris, en gros, l'OPEP, par volonté néolibérale, elle a abandonné le discours, enfin on va dire un peu exagéré, mais entre guillemets, elle va abandonner le discours anticolonial, quoi. Ça c'est ultra intéressant ça. Wall Street va devenir le centre de recyclage des pétrodollars et l'Arabie Saoudite un des premiers financiers des gouvernements américains. La manne pétrolière dont ont profité les pays producteurs va nourrir aussi une effroyable course aux armements au Moyen-Orient, déchirant la région par l'interminable guerre et conflit. La crise financière de 2008 a à nouveau rebattu les cartes. Elle marque en réalité, selon Monsieur Ozano, la première crise globale des limites physiques de la croissance. Elle conduit à la crise énergétique d'aujourd'hui, nous renvoyant à ces questions existentielles encore plus emmêlées, faute d'avoir imaginé d'autres solutions en dehors du pétrole il y a 50 ans. Oui, un article de Martine Orange. Et ben en vrai, il était très très bon l'article. Hein. Franchement, très cool.